Nous allons prendre des questions maintenant, des commentaires. Oui. Oui,
monsieur. Je voudrais dire sur la dernière section de madame, de toute façon, je dirais qu'il est ouvert sur le problème de la santé. J'ai assisté à une conférence de Pierre Rabhi, vous connaissez peut-être, pour certains, qui a créé différentes associations, qui est un acteur sur l'approche agriculture, agriculture biologique, des actions avec lui en voie de développement donc en Afrique, et qui a donné l'opportunité à de nombreux villages, des centaines de villages en Afrique, hein, peu de personnes le savent, d'être complètement autonomes aujourd'hui, et même de prouver scientifiquement. On dit scientifiquement, c'est renseigné scientifiquement que la production, performance est multipliée par 6 ou par 7, par un facteur 6 ou 7. Et aujourd'hui, il a un tel succès que des pays comme l'Inde, la Roumanie et même bien d'autres pays, voire même en Europe, qui sont intéressés par cette démarche. Et il vient de créer une fondation, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui d'ailleurs, c'est locaux, Fondation de France. Pour dire qu'il y a vraiment des actions au-delà même de la santé qui sont en train de se mettre en place. Je ne sais pas si vous comprenez ma démarche et ce que vous voulez dire par là.
Oui, il y avait Bernard
Tepper
qui a demandé la parole avant. Oui, madame.
Oui, moi je voudrais poser une question à Gervais Velasquez. Dans sa proposition, il souhaite effectivement que l'OMS applique son article 19, c'est-à-dire soit capable de provoquer en fait des traités internationaux. Mais qu'en est-il, je dirais, des conflits qui pourraient advenir entre l'OMS faisant un traité international en fonction de son article 19 et l'OMC pouvant également faire un traité international qui soit contradictoire avec celui de l'OMS. Comment faudrait-il faire pour sanctuariser, je dirais, un traité qui utiliserait l'article 19 de l'OMS et qui ne puisse pas être contredit par, je dirais, ce que pourrait faire l'OMC.
Je pense qu'on a évoqué le cas, on a évoqué le cas de la grippe H1N1 comme étant le miroir, c'est utilisé l'expression que j'ai utilisée, de la situation présente en application. Hein. Ça a été ce sur quoi s'est cristallisé tous les défauts de cette organisation internationale. Pas que c'est pas pour revaloriser, je ne sais quoi, mais pas quand même qu'il faut de grippe aviaire. C'est que on ne pouvait pas réfléchir sur le développement de l'épidémie de la grippe H1N1, à un moment une pandémie, sans avoir à l'esprit qu'il y avait eu une histoire très récente qui continue aujourd'hui, la grippe aviaire. Non, je crois que vous avez fait une erreur de chiffre, c'est pas 3 morts, la grippe aviaire, c'est 250.
Ah non, mais sur plusieurs années.
Pardon ?
Sur plusieurs années.
Mais monsieur, est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Alors, ce que je veux dire, c'est que, un, le passage de la grippe aviaire est une maladie des oiseaux, qui est restée une maladie des oiseaux avec quelques exceptions, une possibilité, c'est une possibilité qui ne s'est pas réalisée. Plus on avance dans le temps, moins cette probabilité est grande. Mais, ça n'est pas ça. Deuxièmement, la grippe H1N1 a commencé comme une maladie apparemment assez peu grave. Encore que, au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique latine, la maladie a été quand même inquiétante. Mais ça a été aussi l'histoire de la grippe espagnole de 1918 de commencer comme une maladie. Donc, on ne peut pas faire grief à l'OMS, pas plus national, d'avoir pris très au sérieux le risque que ça devienne une maladie grave. Et la décision de vacciner d'une façon étendue les populations qui avaient accès au vaccin était une, je crois, même aujourd'hui si on balaye ça comme ça ne s'est pas passé, il est important de considérer que la vaccination c'est un des moyens d'éviter qu'une maladie qui peut être plus grave devienne une catastrophe. Je porterai au crédit de l'OMS un rapport qui a été fait à propos de la grippe aviaire il y a 2 ou 3 ans, dans lequel rapport il disait la chose suivante. Si on ne dit jamais les choses là où on les trouve, pour ce qu'elles valent, il disait la chose suivante. La production du vaccin est une opération et l'industrie mondiale produit le vaccin. Il faut que dans les années immédiates qui viennent, on mette en poule l'ensemble des progrès techniques qui permettraient de se libérer de ce plafond de production. Ce que l'on n'a pas fait, et il disait très clairement qu'il faut que ça se passe en dehors des obligations et des contraintes de la prise de parole. Donc on peut porter ça au crédit de l'OMS, de l'avoir écrit, alors que ça n'est pas été mis en œuvre, ça c'est pas fait.
Madame, moi, oui. Prenez le micro, s'il vous plaît.
Non, non, mais allez-y.
Bon, oui, j'ai une voix piquante.
Oui, oui.
Pas de problème. Ce que je voulais dire, c'est qu'avant la grippe aviaire, avant le SRAS, il y a eu en 1994-98, et elle a procédé exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on a eu l'OMS qui a recommandé. L'État français particulièrement, hein, qui a commandé des quantités de vaccins. Et on a par exemple cette phrase d'une note interne de Sanofi, c'était à ce moment-là seulement parce qu'on a vu, il faut dramatiser, faire peur avec la maladie. Donc on a fait tout ça, c'était tout ce que vous avez dit. Aujourd'hui, c'est pas chaud, mais c'est exactement pareil. Les laboratoires sont mis en examen actuellement, tous les deux, dont l'un pour homicide involontaire. L'autre a été condamné dans des pays étrangers, je pense au Maroc. Et ça n'empêche qu'ils relancent cette vaccination. Donc, je pense que c'est très, très grave. Et là, je pense qu'il faut tout de même alerter les populations là-dessus. Parce qu'il y a énormément d'argent là-dessous, bien entendu. Il y a une impunité devant les tribunaux complètement renouvelée chaque fois. Cette fois, elle est même officielle pour H1N1, parce qu'ils ont obtenu des votes là-dessus. Hein. Et puis alors, je pense qu'il faudrait aussi arriver à pouvoir faire des actions de groupe. Or, en France, on n'y arrive pas. Et il y a eu beaucoup d'accidents. Moi, je sais que j'ai perdu mon mari, que c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Le dossier noir, où j'ai vraiment étudié la question comme un témoin. Je ne suis pas médecin, je ne m'engage pas sur le côté scientifique, mais sur le vécu des gens et sur les difficultés qu'ils rencontrent et l'abandon où ils sont. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vends ce livre gratuitement. Voilà, donc je pense qu'il y a. Et alors, ce que j'ai appris de Michel Rivasi, que j'ai rencontré l'autre jour et qui est dans l'Europe écologique maintenant, j'ai appris que l'EMA, l'European Médicament, enfin je pense que vous connaissez la structure au niveau de l'Europe, hein, au-dessus de la SARS, qui elle-même est très compromise avec les laboratoires, l'EMA est donc financée à 70% par les labos, qu'elle faisait partie jusqu'à présent, enfin elle dépendait à Bruxelles de la commission entreprise, mais il paraît que tout récemment, elle vient de passer quand même à la commission santé, mais avec les mêmes gens qui sont reconduits, donc ça ne va pas forcément changer grand-chose pour l'instant. Et puis, je voudrais aussi souligner, puisque l'OMS refuse d'être les commissions en tête, qu'en France, Bachelot n'a pas très envie non plus d'être bien évidemment. Eh bien, nous, en 2002, quand on a demandé une commission d'enquête sur la vaccination hépatite, nous a été refusé aussi. Voilà, donc je voulais simplement témoigner de ça. Et puis demander à M. Germaine Velasquez, parce que quand j'ai écrit mon bouquin, je me suis beaucoup renseignée, et j'ai appris que vous aviez même été l'objet de menaces très sérieuses au Mexique. Est-ce que c'est vrai?
Je vous recommande de regarder le film de Ferri Castagnet qui avait un documentaire sur ce sujet-là. Je voulais juste dire un mot sur la première question, parce que si je comprends bien, il y a une activité, il manque 3 minutes. Donc, la possible contradiction de si la OMS commence à utiliser l'article 19 pour faire des traités, c'est un problème réel, mais il faudra à un moment donné que la communauté internationale fasse les choix et on se dise qu'est-ce qui vient d'abord, la santé ou le commerce. Et évidemment qu'il y aura des contradictions et il y a des personnes déjà qui ont fait des tentatives d'accuser via la OMS la Convention contre le tabac, parce que la Convention contre le tabac, c'est de mettre des barrières à la commercialisation du tabac dans le monde. Tandis que la OMC, elle est en train d'enlever tous les libéraliser les marchés pour promouvoir la commercialisation des marchandises. Donc la Convention contre le tabac, elle a été vue à un moment donné dans le point de vue de la OMC comme une contrainte à la libéralisation des marchés, mais qu'à la fin, ça n'a pas marché et personne à accepter de dénoncer la Convention du tabac, tout simplement pour une espèce de violation des normes de la libéralisation proposée par la OMC.
Dans la volonté de la vaccination hépatite B, dans le monde entier, il y a Bill Gates.
Est-ce qu'il y a des réponses, d'autres réponses aux questions
Un petit mot en passant sur l'augmentation des partenariats publics-privés, des PPP. Moi, je me rappelle avoir entendu au Palais des Nations un briefing du responsable santé de la Banque mondiale, je l'ai son nom à l'heure actuelle, qui m'expliquait que sous Bolton, justement, quand elle était directeur général de l'OMS, on avait créé un kitchen cabinet. C'est-à-dire, c'est un terme qui vient de l'époque de Churchill, où il y avait un kitchen cabinet, c'est-à-dire qu'il y avait un cabinet privé qui décidait de la politique de l'Angleterre dans la Deuxième Guerre mondiale. Et le kitchen cabinet, tel que Bolton l'avait écrit, ça comprenait l'OMC, et ça comprenait le Fonds monétaire international, et ça comprenait tout ça. Et en fait, c'est de l'époque de Bolton que date la mise sous coupe de l'OMS en disant « Ah ben la propriété intellectuelle, c'est pas nous qui pouvons le faire, ce sera l'OMC, etc. » C'est-à-dire qu'il y a une dérive à partir de ce moment-là qui fait que l'OMS s'est volontairement réduit son mandat. Tout simplement, ça réduit son mandat. Et récemment, donc, des avocats des PPP disaient qu'en fait, les partenariats public-privé, il y a trois hommes qui les ont bâtis, c'est Bolton, Kofi Annan et Bill Gates. Kofi Annan avec le Global Compact. Et c'est quand on regarde la courbe des PPP, et ça, vous pouvez aussi le voir sur le site de Davos, on arrive à des sommes. Il y a une accélération, mais tous les jours, il y a de nouveaux partenariats qui se créent. Et qu'est-ce que ça veut dire, in fine? Ça veut dire qu'on est en train de tuer la démocratie. Parce que ces partenariats public-privé, ça ne va pas s'appliquer qu'à la santé, ça va s'appliquer aussi à l'agriculture, à d'autres domaines. Et si on n'arrête pas ça, ce sont les grands groupes transnationaux avec quelques pays complices et achetés qui vont décider de la politique.